Colibri.
Un instant, je vous prie. Vous êtes si pressé que ça?
Oui. J'ai sans doute dormi très longtemps. J'ai failli avoir un accident cette nuit. Je ne voyais plus la route. Alors j'ai décidé de m'arrêter un peu.
Vous avez passé la nuit ici?
Oui. Ça n'a rien d'extraordinaire. Je tombais de sommeil.
Il y a beaucoup de motels dans le coin. Vous auriez pu... Enfin, ça aurait été plus prudent.
En réalité, je ne comptais dormir qu'un instant. Et après repartir. Ai-je commis une faute quelconque?
Non, madame.
Alors je peux m'en aller?
Il n'y a rien qui vous tracasse?
Quelle idée! Est-ce que mon attitude vous semble anormale?
Assez, oui.
Pourtant, il n'y a aucune raison.
Vous paraissez inquiète.
Inquiète de quoi? Je n'ai pas la moindre raison d'être inquiète. Seulement, je suis pressée. Et j'ai hâte de repartir.
Une minute, je vous prie. Arrêtez votre moteur. Montrez-moi vos papiers.
Pourquoi?
S'il vous plaît. Merci.
Bienvenue dans Colibri, l'émission littéraire batracienne où grenouille s'est aussi rimée avec grosse trouille. Et oui, vous aurez reconnu Janet Leigh dans Psychose d'Alfred Hitchcock. Pour son numéro 5, le volatile s'injecte du frisson dans les plumes et s'intéresse aux polars et romans noirs. Un roman acheté sur 5 est un roman policier. Et en France, en 2004, 60 éditeurs ont vendu 20 millions de polars. Du roman énigme façon Agatha Christie, au hard-boiled à la David Goodis, en passant par le roman d'espionnage de John Le Carré, le roman policier est un genre littéraire polymorphe massivement lu et pourtant mal reconnu. Voilà pourquoi littérature criminelle, psychopathe conventionnel et flic lâche et cruel sont dans le numéro 5 de Colibri. Au sommaire de l'émission, un décryptage du genre en compagnie de Pierre Favier de l'Alcazar et de François Tomaso, écrivain et fondateur de L'Écaillé du Sud. Un portrait croisé en forme de polarama par 5 étudiants de l'IUT Métier du Livre d'Aix en Provence. Un zoom sur le polar en BD, mené comme d'hab par Peggy de la Réserve à Bulles. Et un triple coup de cœur provençalo-américano-britannique. Colibri numéro 5, les polars et les romans noirs, c'est parti.
La voiture est en bas, chef. Un type qui vient de se faire descendre chez lui à Passy. Les domestiques l'ont trouvé en rentrant.
Non, non, il y a des gens qui choisissent leur jour. Seul démangé de se faire bigorner, ce connard-là, il pouvait pas remettre sa main.
Lui n'aurait peut-être pas demandé mieux.
Mais ben, et moi donc. Demain, Balandieu prend la permanence. Il aurait été ravi, Balandieu, hein. Ça le chatouille d'être appelé monsieur le principal.
Et sans vous commander, chef, faudrait vous brouiller. On doit encore passer prendre le patron. Le
patron se dérange?
En personne.
Ah, bravo. C'est pas qu'il soit tellement fortiche, le patron, mais. Y a pas de raison qu'on soit les seuls à être emmerdés.
C'est drôle, depuis 15 jours vous ralliez parce que la clientèle se fait rare.
Mais ce soir, ça me gêne.
Ah, n'êtes pas libre.
Ouais, ça me ferait mal. Avant qu'une femme rentre ici. Non seulement ça m'embête de laisser le petit tout seul. Pour une fois où il ne couche pas au dortoir. T'en fais pas, mon coco. Si j'ai un cravatin, il me le paiera, ton casse-croûte.
Décryptage.
Pour tenter de décrypter le genre policier, j'accueille en studio Pierre Favier, chargé des acquisitions en paralittérature pour l'Alcazar, la bibliothèque municipale à vocation régionale de Marseille. Bonjour Pierre.
Bonjour.
et François Tomaso, écrivain et fondateur de Les Cahiers du Sud, une maison d'édition et une librairie spécialisée dans le polar qui se trouve à Marseille également. Bonjour François.
Bonjour.
Et merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation du Colibri pour essayer de nous aider un petit peu à comprendre davantage en quoi consiste le roman policier. On vient d'entendre un extrait du Quai des Orfèvres, un film de Henri-Georges Clouzot avec l'exquis Louis Jouvet. C'est un film qui date de 1947. Depuis quand le genre policier... quand est-ce que le genre policier s'est développé? J'ai l'impression que c'est assez récent. Est-ce que je me trompe? Deux siècles d'existence?
Oui.
Non, dites-nous tout.
Les historiens du genre vous diraient que ça remonte à la tragédie grecque et que donc le polar a toujours existé, a toujours plus ou moins accompagné la littérature tout court. Après, si on doit vraiment se caler dans l'histoire, finalement, le roman policier apparaît très très vite après le roman tout court, en fait. C'est dans la foulée, et on peut le situer, le dater, l'apparition du roman policier au sens strict dans la moitié du 19e siècle, en fait. Et c'est un genre qui apparaît à peu près à la même époque que la révolution industrielle, qui accompagne la révolution industrielle et l'urbanisation des pays occidentaux. Très vite, la ville, puisque c'est ça un des moteurs du roman policier, la ville devient un élément central de la littérature. Et à partir de ce moment-là, le polar fait son apparition parce que la ville, elle charrie son côté noir, son côté sombre, ses bas-fonds, ses meurtriers et sa face cachée, quoi. Donc on peut dire que le policier et le roman noir apparaissent à peu près dans la deuxième moitié du 19e. Ils deviennent un genre constitué.
D'accord. Donc il y a un caractère fortement urbain, citadin.
Il y a du polar rural, hein, ouais. ça existe aussi. Il y a d'innombrables sous-genres dans le polar. Donc le polar rural existe, mais c'est vrai que, je ne sais pas, l'affaire Dominici qui est une affaire réelle, ça se passe à la campagne. Donc la campagne aussi, dans Simenon, dans Maigret, il y a des Maigrets ruraux, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il y a aussi Jim Thompson aux États-Unis qui écrit sur les Pecnots, hein, du sud profond. Donc il y a du polar rural, c'est un fait. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est un genre qui accompagne les peurs qui sont liées à la ville. Je ne sais pas, Conan Doyle, puisque c'est un des fondateurs du genre, hein, avec Sherlock Holmes, donc Conan Doyle, c'est quand même bien avant
1891.
Ah, merci Pierre.
Conan Doyle, Sherlock Holmes traduit un peu les peurs qui sont liées à la grande ville et à Londres. On est à la période de Jack l'Éventreur, de tous ces mythes un petit peu urbains. Et oui, le polar et encore plus le roman noir sont liés à la ville, à l'urbanité et à tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire à l'industrie un petit peu sans pitié, à la crise sociale, à tout ce qui est bas-fond. Disons que le polar apparaît à un moment d'une société en rupture, en fait, où le monde rural et la civilisation qui a régné pendant 30, 35, 40 siècles, qui est surtout agricole, subitement se transforme. Et c'est dans ces mutations-là que subitement arrive l'inconnu, l'imprévisible, l'avenir pose problème et fait peur. Donc toutes les périodes de charnière, toutes les périodes de crise sont des périodes propices au polar, au roman noir et à l'éclosion de ce genre. C'est pas un hasard si en ce moment, justement, le polar est plus ou moins à la mode, il est lié, c'est un genre qui colle bien avec les périodes de bascule.
D'accord.
J'aimerais ajouter deux choses à ce que vient de préciser François. Outre l'immigration rurale vers les grandes villes, il y a un facteur à prendre en considération, notamment en Europe, c'est le niveau de relevage de l'alphabétisation qui permet, en même temps que explosent les journaux papier, notamment les feuilletonistes.
Oui, d'accord.
On va croiser dans tout ça Vidocq. Donc, mine de rien, quand on redescend, ça nous ramène à Napoléon, la création des polices officielles, les premiers syndics, les concierges. Voilà. Et le tout compilé crée, je dirais, une matière qui fait que les feuilletonistes mettent en exergue le quotidien, notamment le crime. Et c'est-à-dire que la transgression sociale, le meurtre, le crime, intéresse le tout venant et non pas forcément la bourgeoisie ou les élites.
Ouais, voilà. D'accord. Là, on est sur l'aspect populaire du genre.
Tout à fait. Mais en fait, là où je rejoins complètement Pierre, c'est qu'en fait, le polar, il prend ses racines dans une tradition très ancienne, celle des gazettes ou même des chansonniers dans des rues. Quand il y avait un meurtre sanglant, il y avait une chanson qui courait sur les ponts de Paris où il y avait des gazettes qui sur une feuille racontaient tous les détails horribles de l'affaire. Et le polar, il tire son origine de là. Et c'est vrai que donc Pierre a parlé des feuilletonistes. Vraiment, le polar, il est ancré là-dedans, dans ce modèle économique de la presse de l'époque, qui est que pour faire acheter le journal du lendemain, on fait un feuilleton, et ce feuilleton, il faut que à chaque épisode, il donne envie d'en savoir plus. Donc à chaque, la manière dont c'était conçu, les feuilletons, bon, Balzac en a fait, Dickens, qui est un grand auteur de romans noirs, a été feuilletoniste, Maurice Leblanc, Gaston Leroux, tous les grands pères fondateurs du polar en France étaient des feuilletonistes, et le principe était simple, il fallait qu'à la fin de chaque épisode, il se passe un rebondissement, c'est comme Plus belle la vie. et à partir de Plus belle la vie, qui est aussi à sa façon un polar d'ailleurs. Bon. Et donc c'est vrai que ça a tiré, le polar est né de ça. Et la manière dont c'est conçu, dont c'est construit, un petit peu une mythologie, quelques personnages clés, tout ça tire ses racines vraiment dans le mode de fonctionnement du feuilleton, à savoir qu'il faut relancer l'intérêt, il faut attirer le lecteur pour lire ce feuilleton. Et donc on va parler de choses horribles, de tous les fantasmes qui inquiète le petit peuple qui va lire le canard.
Est-ce qu'il a une fonction cathartique, alors ?
Oui, parce que tout à l'heure, j'ai utilisé un mot, transgression sociale, voilà. C'est-à-dire on commet l'irréparable. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que ça soit ou résolu et puni.
Voilà.
Et ou puni. Et jusqu'à une période qui va s'étaler à peu près jusqu'à la seconde guerre mondiale, le crime sera généralement puni. Après, on va basculer sur autre chose.
D'accord. Donc les ressorts, finalement, seraient les mêmes que, on parlait de la tragédie grecque, mais on est dans la terreur et la pitié de la catharsis.
Complètement. En fait, le polar est un roman populaire et c'est l'héritier moderne maintenant du roman populaire. Dans Fantomas, qui est par exemple, Souvestre et Alain, qui est l'archétype du roman populaire à la française, vous avez un flic, vous avez un journaliste, vous avez des criminels qui reviennent, il y a le méchant qui va revenir à chaque fois. Ça, c'est une typologie de roman populaire qui existe encore dans le polar actuel, y compris le plus sophistiqué. Tout ça n'a pas évolué. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, et ça doit prouver qu'on est dans une période en crise, c'est qu'on est revenu... Les polars qui se vendent le plus maintenant, je fais un saut dans le temps, mais on pourra revenir à l'évolution. Hein. Les polars qui se vendent... Il y a eu, après donc, cette période qui est celle du feuilleton, il y a eu la vogue des whodunits. Les whodunits, c'est les romans énigmes, ça veut dire en anglais qui a fait le coup. Donc c'est tous les succès d'années d'Agatha Christie, John Dixon Carr, Dorothy Sayers, ensuite P.D. James, il y en a encore, maintenant c'est Mary Higgins Clark. Ce genre, il traverse les âges. On a une enquête, c'est presque scientifique, c'est les meurtres en chambre close, comment il a-t-il fait alors que la porte, voilà, c'est LVC, était fermé de l'intérieur, hein, pour résumer. Ensuite, on est passé au roman noir, c'est-à-dire avec vraiment là, ancré dans le réalisme, le naturalisme et le côté un peu social. Et aujourd'hui, les polars qui se vendent le mieux, ce sont des polars où les méchants sont punis. Ce sont les polars... on est revenu à des polars où il y a un flic qui est un genre de shérif. On est un peu comme dans le western et qui a peu de temps pour régler un problème qui risque de mettre en cause la survie de la communauté. Et si vous lisez... alors c'est très étonnant d'ailleurs, la typologie, on en est arrivé maintenant, du personnage de polar qui marche. C'est un flic, c'est un vieux flic en fin de carrière. Il a la cinquantaine, il a des problèmes conjugaux, voire de divorce, de veuvage, hein, comme dans PJ. Il a des problèmes avec l'alcool. Et malgré tout cela, il est le dernier rempart. Il est le héros qui peut encore sauver la société parce que justement il est faible, parce qu'il est humain, parce qu'il en a bavé et parce que les temps sont durs. Et par son côté exemplaire, il sauve un peu la société. Alors vous trouvez ça dans Connelly, Harry Bosch, vous trouvez ça chez John Harvey, vous trouvez ça chez Ian Rankin, vous trouvez ça chez Jean-Claude Izzo, vous trouvez ça un petit peu tous les polars qui se vendent bien, même chez Vargas. On a vous trouvez ça.
Un flic perturbé, affecté.
Vous trouvez ça presque dans Navarro, vous trouvez ça dans PJ. Vous trouvez ça dans NYPD Blue à la télé. C'est vraiment le personnage emblématique du polar qui marche dans ce début du 21e siècle. C'est ça, c'est un homme âgé qui a vécu, qui en a bavé, qui a de l'expérience, beaucoup d'humanité en dépit de tout ce qui nous tombe dessus. Quoi. C'est ça le personnage emblématique.
Pierre ?
Pour compléter, je dirais que cet enquêteur, ce flic, a presque une image christique. C'est-à-dire qu'il a porté sur lui... Tout le poids du péché, de la société, et il est le rédempteur, et il va se sacrifier pour elle, généralement. Il ne sort jamais indemne de l'enquête.
Oui, voilà. Tout à fait. J'ai envie de rebondir sur ce que vous disiez sur les ingrédients pour faire un bon personnage de polar. Est-ce que ça, c'est une limite au roman policier, le côté recette ? Enfin, c'est des choses que moi, j'ai déjà entendues, au sens où, oui, le polar, de toute façon, c'est un peu toujours la même chose. Malgré le fait qu'il y ait une grande diversité dans le genre, comme on en a parlé à travers ces différentes formes, on a l'impression, parfois la désagréable impression, d'avoir une recette qui défile.
Alors, effectivement, il y aura peut-être encore des recettes, et elles ont été normées, notamment par Van Dien, je ne dis pas de bêtises, par Chandler, Christie. Ce sont des gens qui ont dit, voilà, il y a 10 règles, 20 règles, 50 règles à respecter. Bon, ça a été vrai. Je crois que ce n'est plus vrai. François confirmera, je pense. Il y a ceux qui l'appliquent encore et il y a ceux qui ont complètement déstructuré le genre.
Oui,
je pense notamment à Boileau Narcejac, mm-hmm. qui a une phrase superbe qui dit « Le polar est le produit de la déconstruction du roman policier ».
Voilà. Ah oui, donc là, on serait à l'opposé de la recette.
Le polar ayant toujours été un roman de transgression, les auteurs... De toute façon, puisqu'on parle de recette, il faut savoir que le polar, c'est aussi une économie et qu'un polar doit se vendre. C'est un roman populaire. Il faut surprendre le lecteur, c'est-à-dire il faut donc l'amener dans un terrain dans lequel il est habitué, comme les westerns ou toute la littérature de genre. Et une fois qu'il est là-dedans, bon, si vous lui resservez la même recette qu'il a mangé 47 fois, il va pas marcher. Donc il faut trouver quelque chose de nouveau à l'intérieur d'un genre qui est très codifié. Les recettes, elles fonctionnent toujours, dans une grande part, puisque comme on l'a vu, comme je viens de le dire, les personnages sont assez normés. Par exemple, il y a aussi un autre genre très à la mode, c'est le polar historique, qui est ancré dans une réalité. Alors c'est chez les Romains, ça va être chez les Grecs, ça va être chez les Chinois de l'Empire Ming, ça va être... Voilà, on fait de l'exotisme, on dépayse le lecteur. Tout ça, c'est dans des cadres assez normés. Mais après, ce qui va rendre un polar différent, intéressant, c'est que le polar joue beaucoup sur la surprise. Et donc, à l'intérieur de ce cadre normé, si vous arrivez à faire péter les règles, à ce moment-là, c'est gagné. Donc les recettes, il y a des recettes dans le théâtre, il y a des recettes dans le... C'est vrai que le polar est un genre un petit peu encadré dans un moule, mais tout l'intérêt de ce genre, c'est à l'intérieur de ce moule d'essayer d'en repousser les limites. Et je trouve qu'il est beaucoup moins normé que beaucoup d'autres genres, que le roman, je ne sais pas, nombriliste du 5e arrondissement parisien, par exemple.
Pour être précis. Oui, j'ai envie de rebondir sur, on a largement parlé de la popularité du roman policier. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il a eu du mal à atteindre une certaine reconnaissance par les pontes de la littérature plus classique? Enfin, c'est peut-être des problématiques qui sont récurrentes pour les littératures de genre. Mais...
J'ai une anecdote, moi, qui vaut ce qu'elle vaut, mais il faut savoir que Camus a écrit L'étranger après avoir lu Pas d'orchidée pour Miss Blandich de Chase. Donc c'est quand même, je pense, une reconnaissance.
Ouais.
Ensuite, il faut se situer au niveau européen ou au niveau anglo-saxon. Ce sont deux mentalités différentes. Je veux dire, je pense qu'en termes de paralittérature, et notamment au niveau du roman policier et du polar, les anglo-saxons ont toujours été en avance par rapport à nous. Bon. Nous, je pense que institutionnellement, il faut attendre 1995, la création de la Bilipo, pour avoir un établissement qui recense et qui accepte et qui permet la production d'écrits. Il y avait une étude très intéressante de la BBF, c'est-à-dire c'est le bulletin de la BNF, qui disait qu'entre 1929 et 1950, il y a eu 10 études ou essais sur le polar. Entre 1950 et 1976, il y a encore eu 10. Et à partir de là, on a eu 60 études. Mmh. Donc, il y a une tournée en France, c'est 68, je pense. Prise de conscience, changement des mœurs, des mentalités. Un gars comme Léo Mallet, qui était complètement ignoré, déconsidéré, se retrouve monté au pinacle et on produit des thèses et des essais sur son compte. Donc je pense qu'il y a eu une révolution culturelle, il faut le dire, en 68, qui a permis de changer les mentalités et maintenant de mettre le polar, non pas le roman policier, comme un genre littéraire indépendant.
D'accord. François, vous voulez ajouter quelque chose pour... préciser.
On appelle ça paralittérature, c'est comme la parapharmacie, ça ressemble mais c'en est pas, soi-disant, alors que bon, on appelle ça des mauvais genres aussi, donc c'est vrai mais je crois que, comme l'a dit Pierre, c'est très français. En France, on sacralise la littérature et c'est un genre trop, enfin, on considère ça comme un art, une discipline trop sérieuse pour être laissée à des polardeux, à des comiques. Par exemple, le roman humoristique en France jouit de la même. impopularité, alors qu'en Angleterre, il est impossible de sortir un bouquin qui n'ait pas une petite once d'humour. Donc tout ça est très culturel. Je pense qu'en effet, malheureusement, les anglo-saxons sont beaucoup moins normés que nous et reconnaissent un génie, qu'il fasse du polar, qu'il fasse de la poésie, du théâtre. On est un petit peu, en France, dans cette tradition, à la fois de l'Académie française, cette tradition très universitaire qui veut qu'il faut être adoubé par les gens qui savent pour être considéré comme littéraire. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que la popularité du polar est la preuve de ce que ça fonctionne et que faire un roman qui marche et qui est lu, c'est souvent plus difficile que de faire un roman qui ne marche pas et qui n'est pas lu, aussi quelles que soient ses qualités. Donc, en l'occurrence, je pense que maintenant, comme disait Pierre, Léo Mallet, que moi j'adore, a été reconnu sur le tard, peut-être trop d'ailleurs en étant dans l'excès inverse. Simenon, qui n'était qu'un tâcheron pendant des années et des décennies, est considéré maintenant comme un des plus grands écrivains de langue française du XXe siècle. Il y a eu des renversements comme ça. Je pense que c'est assez classique, c'est valable dans tous les genres, malheureusement.
Malheureusement, le temps tourne. On prend quand même quelques minutes pour parler du polar marseillais, qui est assez incontournable, qui plus est sur Radio Grenouille à Marseille. Sur le polar marseillais, quelles sont les spécificités? Est-ce que c'est comme le polar new-yorkais, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que c'est Marseille l'héroïne, comme New York est l'héroïne dans les...
Marseille l'héroïne, c'est une sorte de jeu de mots intéressant.
Quelles sont les caractéristiques du polar marseillais?
Je l'ai dit tout à l'heure, la ville est centrale dans l'irruption du genre et comme personnage presque des polars. Donc il est vrai que ce qui fait la spécificité du polar marseillais, c'est qu'il parle de Marseille, oui. Mais c'est un Marseille... Alors, il y a tous les genres. On a longtemps parlé d'école. On aurait pu penser à une certaine époque en lisant les médias sur le polar marseillais qu'un jour on s'était réunis une trentaine de gens dans un restaurant. On avait décidé d'écrire des polars et de créer un genre. Non, il se trouve qu'il y avait des gens qui. Le pôle de population, Marseille-Aix, un peu toute la région, ça doit faire, je sais pas, 2,5 millions d'habitants. C'est presque la Belgique francophone. Ça serait un peu étonnant qu'il y ait plein d'auteurs belges et pas d'auteurs marseillais. Donc il se trouve qu'à un moment donné, par simple arithmétique, il y a eu des auteurs qui ont écrit du polar à Marseille, et puis il se trouve que Marseille est aussi une ville qui, pour un tas de raisons, prête au fantasme. C'est un port, c'est une ville populaire, c'est une ville où le gangstérisme a sévi et sévit toujours, c'est une ville où politiquement trouble.
Oui, il y a de forts atouts romanesques.
Il y a des forts atouts romanesques, et c'est comme ça que ça s'est constitué. Pierre a peut-être des choses plus...
Sur la question, je crois que tu es le grand spécialiste.
Non, voilà, donc les spécificités du polar marseillais, c'est un petit peu... Alors, de temps en temps, il y a le côté terroir. C'est vrai que le polar terroir est aussi un sous-genre. C'est un polar qui parle à des gens de leur vie dans tel endroit. Donc, il se trouve qu'on trouve assez souvent dans certains polars marseillais du marseillais, enfin du langage d'ici. Il y a une forte tendance, alors ça c'est, je trouve assez intéressant, même si on en parle assez peu, parce que je parlais tout à l'heure du roman humoristique, il y a quand même une forte tendance comique ou cocasse dans le polar marseillais. Carrez, par exemple, il fait du énorme, un peu comme les comédies italiennes, même si Philippe se défend de faire du polar. Il se trouve que moi aussi j'ai fait du polar un peu humoristique, Jean-Paul Delfino également. Il y a cette frange un peu de verve, de gouaille, un peu déconnante pour essayer de décrypter une réalité qui l'est. Utiliser l'humour, c'est aussi une caractéristique du polar marseillais. Pour le reste, maintenant, ça fait une grosse dizaine d'années que le polar marseillais, en tant que vogue, on va dire, grâce à Jean-Claude Izzo, s'est répandu. Mmh. Et aucun des auteurs du polar marseillais n'a l'impression d'appartenir à une école, à un sous-genre très particulier. Chacun écrit dans son coin, on s'aime bien, on est potes, on se voit, on fait des choses ensemble. De là à dire qu'il y aurait une école, une tendance, un sous-genre, je pense pas. On aimerait tous faire oublier Marseille dans nos bouquins et qu'on nous juge simplement sur la qualité de chaque ouvrage, quoi.
C'est ça, l'étiquette est devenue un petit peu trop... un petit peu pesante.
Marseille a une image envahissante pour qui que ce soit. Si vous faites du cinéma marseillais, on va tout de suite dire tiens, c'est un peu le problème de Marseille. C'est une ville à identité forte et qui a tendance parfois à la fois à aider à la promotion et à la fois aussi à tirer vers le bas, mais
donc on bascule rapidement dans le cliché, quoi. C'est
voilà.
Ça. Ouais.
Voilà, c'est une bonne conclusion. Pierre Favier, François Tomazo, je vous remercie tous les deux.
Merci de nous avoir invités.
Et je rappelle aux auditeurs que l'Alcazar est situé 14 cours Belzins, dans le 1er arrondissement à Marseille, et qu'on y trouve un rayon policier dense et varié. Quant à Les Cahiers du Sud, la librairie est située 2 rue Barbaroux, également dans le 1er à Marseille. Et on peut y décoter pléthore de polars et sûrement beaucoup de romans également de François Tomaso, dont on n'a pas trop parlé, mais j'invite les auditeurs à venir les découvrir dans la librairie Les Cahiers du Sud. Pierre ?
J'aimerais rajouter que le 3 février, François sera présent à l'Alcazar pour une thématique jazz et polar et que nous sommes très fiers de sa venue. Voilà.
Très bien, le message est passé. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose une petite pause musicale, histoire de rester dans l'ambiance. On écoute un extrait de la bande originale du film Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle, composé et interprété par Miles Davis. Le morceau s'appelle L'assassinat de Karala. On se retrouve après pour le Polarama. A tout de suite.
Vous mangez comme un oiseau.
Et vous êtes expert.
Pas tellement. Et puis, d'ailleurs, l'expression manger comme un oiseau est en réalité une faux. Enfin, une erreur. Parce que les oiseaux mangent énormément. Mais en réalité, les oiseaux ne m'intéressent pas tellement. Ma passion à moi, c'est de les empailler. Je crois que si je choisis spécialement les oiseaux, c'est parce que j'ai horreur des autres bêtes quand elles sont empaillées. Vous savez, les renards, les singes. Énormément de personnes empaillent les chiens et les chats. Moi, je suis contre. Je crois qu'il n'y a que les oiseaux qui supportent d'être empaillés, parce que, même vivants, ils ont un côté passif.
C'est un passe-temps surprenant.
Vous écoutez Colibri sur les ondes de la grenouille, le volatile qui n'a pas peur de se faire empailler par Anthony Perkins se penche aujourd'hui sur les polars et les romans noirs. On en a tous lu, on en a tous frissonné. Quelques étudiants de l'IUT Métiers du Livre d'Aix-en-Provence vous donnent leur titre référence dans le genre. On écoute Anne-Sophie, Anne, Clémence, David et Laetitia. Un polarama polyphonique et éclectique.
Portrait croisé. Alors donc moi j'ai choisi de vous parler d'un livre qui s'appelle Raphaël Dernier Jour, écrit par Gregory MacDonald aux éditions 10-18. C'est un auteur américain contemporain qui est journaliste et qui est surtout connu pour sa série sur le détective Fletcher, mais c'est surtout du côté anglo-saxon. En France, il est très connu pour son livre qui s'appelle Raphaël donc Dernier Jour, qui est paru en 96 en France. Il a été également adapté au cinéma par Johnny Depp en 1997. Alors moi j'ai choisi de vous parler de ce livre, même si c'est pas à proprement parler un polar, mais c'est surtout un roman très noir. Alors, donc, je vais vous parler un peu de l'histoire. Donc, c'est Raphaël, ça se passe aux États-Unis. C'est un homme qui est alcoolique, illettré, qui vit dans une décharge avec toute sa famille. Il a 30 ans et donc il est dans la misère la plus noire. Et pour s'en sortir, il voit qu'une seule solution, il accepte de jouer dans un snuff movie. En fait, c'est un film dans lequel sa mort va être filmée en direct pour pouvoir aider sa famille, qui à l'issue de ce film touchera une somme de $30,000. Donc voilà, on vit avec lui en fait ces 3 derniers jours. Et c'est vraiment bouleversant, quoi. Il y a au début du livre, l'auteur donne lui-même un avertissement. Il déconseille de lire le chapitre 3 qui décrit de façon vraiment très détaillée le film, en fait, tout ce qui va lui arriver s'il accepte ça. Voilà, mais malgré ça, si on arrive à passer ça, c'est vraiment un livre exceptionnel, un peu hors norme, très, très touchant, très retournant. Il n'y a pas vraiment d'intrigue, mais tout se passe vraiment dans la façon dont cet homme retrouve une certaine dignité à travers cette histoire. Voilà, donc je vous conseille de lire Raphaël Dernier Jour de Gregory MacDonald aux éditions 10-18.
Alors moi je vais vous présenter un de mes livres cultes, donc L'homme à l'oreille croquée de Jean-Bernard Puy. C'est un livre qui a obtenu plusieurs prix, et notamment le prix Polar en 1989. Donc ce que je vais faire, je vais vous lire la quatrième de couverture qui donne bien le ton du livre. Les accidents de train, les catastrophes ferroviaires, on lit toujours ça dans les journaux, et ça n'arrive qu'aux autres. Mais quand on se retrouve aplati contre une jeune femme sous 40 tonnes de tôle pendant 5 heures, le mieux est encore de faire connaissance. Donc en fait, c'est l'histoire de Marcel, un adolescent, qui s'est fait croquer la moitié de l'oreille par Marie-Claude pendant cet accident de train. Il tente alors de la retrouver et se sert du peu d'informations qu'elle lui a dit dans le train pour la rejoindre et pour savoir si elle lui a réellement bouffé l'oreille ou pas. C'est alors qu'on embarque dans un road movie plutôt noir, mais teinté de beaucoup d'humour. On va se trouver confronté en même temps que Marcel à des grands du gangstérisme. La grande question du livre, c'est de savoir qui est vraiment Marie-Claude. Ce livre, c'est tout simplement un petit bijou qui se dévore en seulement quelques heures. C'est lisible par tout type de public. Il faut donc se pencher sur L'homme à l'oreille croquée de Jean-Bernard Puy, publié aux éditions Folio Policier, pour goûter l'ingénuité, la maladresse et la malchance de Marcel auquel on s'attache dès ses premiers mots.
Donc alors le livre que j'ai choisi, c'est Comme une tombe de Peter James aux éditions Panama. Je voudrais déjà préciser que je ne suis pas une grande lectrice de policiers, mais que j'ai beaucoup apprécié ce livre. Il a eu le premier prix du Polar International 2006 dans le cadre du salon Polar & Co. de Cognac. Alors l'histoire est simple et l'intrigue est posée dès les premières pages. En fait, c'est Michael Harrison qui doit se marier et à 4 jours de son mariage, ses amis lui organisent son enterrement de vie de garçon. Et comme c'est une personne assez blagueur, ils ont décidé de l'enfermer pendant 2 heures dans un cercueil et ils communiquent avec lui avec un talkie-walkie. Le problème, c'est que ses amis étaient très sous et ils se sont tués à quelques kilomètres de l'endroit où est enterré Michael. Ce qui fait que dès les premières pages, on a affaire à un homme qui est enfermé dans un cercueil, qui ne peut communiquer avec personne puisque ses amis sont morts. C'est un livre qui a plein de rebondissements, on est toujours tenu en haleine. Donc j'ai passé un très bon moment avec. Et le titre, donc, c'est Comme une tombe, de Peter James aux éditions Panama.
Alors je vais vous parler de Moloch, de Thierry Jonquet. Thierry Jonquet, c'est un auteur français, assez connu dans le genre du roman noir, puisqu'il a écrit aussi Les Orpailleurs, Migale, Mémoire en cage. Et toutes ces histoires traitent comme ça de faits divers sur fond de critiques sociales. Alors, Moloch, c'est le nom d'un dieu chanaéen dont le culte reposait essentiellement sur le sacrifice d'enfants. Alors on fait le lien tout de suite avec ces sacrifices d'enfants puisque ça commence, le bouquin commence avec la découverte de cadavres d'enfants plus ou moins carbonisés dans une maison abandonnée à Paris. Alors l'enquête, elle est menée par une équipe de flics et de magistrats tous plus perturbés les uns que les autres par leurs propres démons. Et donc ça nous donne comme ça une sorte de fresque sociale plutôt pathétique, où chacun se débat avec son désir d'importance, chacun pataugeant en totale absurdité. Alors il y a l'armée, la médecine, l'art, les services sociaux, l'immigration, tout est passé au crible pour dénoncer une sorte de misère sociale absolue qui conduit bien souvent à des sacrifices de vie, et tout ça pour rien. Donc voilà, c'est un bouquin rempli de sens, mais plutôt dénué d'espoir. C'est Moloch, de Thierry Jonquet, chez Gallimard, dans la collection Folio Policier.
Moi, je vais vous présenter Dans les bois éternels de Fred Vargas. Alors, Fred Vargas est une femme, contrairement à ce que son nom peut laisser penser. C'est une historienne médiévaliste et archéologue, et ça a de l'importance sur l'exactitude de ce qu'elle nous donne à lire. Alors là, on retrouve son personnage fétiche, c'est le commissaire Adamsberg. Et c'est une histoire qui se passe où il revient dans le pays de ses origines, c'est le Béarn. Alors le commissaire Adamsberg est un personnage très attachant, un petit peu fou comme on peut l'être tous. Et il y a des choses qui le touchent beaucoup dans cette enquête et on revient donc dans ses origines, dans ses montagnes originelles. Je voulais dire que les policiers sont le lieu pour une critique sociale des mœurs contemporaines qu'on trouve difficilement dans d'autres romans. Et moi, c'est ce que j'aime bien en lisant des polars. Voilà, moi, je vous conseille de lire Dans les bois éternels de Fred Vargas, sorti en 2006 aux éditions Viviane Ami. Et vous pourrez trouver beaucoup d'autres titres dans ces éditions ou aux éditions J'ai lu en poche.
Vous venez d'entendre sur l'autoroute un extrait de la bande originale du film de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud, composé et interprété par Miles Davis.
Il est triste pour une mère d'avoir à prononcer les mots qui condamnent son propre fils. Mais je ne pouvais pas leur laisser croire que j'étais capable de commettre un meurtre. Ils vont l'enfermer maintenant. J'aurais dû le faire moi-même il y a des années. Il a toujours eu un mauvais fond. Et je sais qu'il avait l'intention de leur dire que j'avais tué ces jeunes filles et cet homme. Alors que je ne fais rien d'autre dans la vie que de rester assise tranquillement, l'œil fixe comme un de ces oiseaux qui l'empaille. Ils savent très bien que je ne peux même pas bouger un petit doigt et que je ne le veux pas. Je ne vais pas faire un geste, je vais rester calme, au cas où ils me soupçonneraient. D'ailleurs, je suppose qu'ils me surveillent, et bien qu'ils me surveillent, ils verront quelle sorte de femme je suis. Je n'écraserai même pas cette mouche. J'espère qu'ils me surveillent. Ils verront et ils comprendront. Et ils diront, elle n'aurait pas fait de mal à une mouche.
«
vous l'aurez compris, on parle des psychopathes en tout genre ce matin dans Colibri, un bon moyen de commencer le week-end. Et c'est l'heure du zoom sur la bande dessinée du genre, en compagnie de Peggy de la Réserve à Bulles. Bonjour Peggy.
Bonjour Ariane.
Alors tu nous fais un petit tour du polar en bande dessinée ?
Oui. Vraiment, le polar pur et dur en BD ne tient pas une place immense, mais reste quand même relativement présent. La figure emblématique du polar en BD, c'est Tardy, donc qui exerce dans la BD depuis une vingtaine d'années. Son trait en noir et blanc et sa narration très dense s'adaptent bien au genre noir. Ses deux dernières parutions étaient des adaptations de romans. Donc Le Petit Bleu de la Côte Ouest, qui est une adaptation d'un polar de Manchette, et Le Secret de l'Étrangleur, qui est une adaptation de Cauchemar de Signac. Donc ça, c'est ses deux dernières productions.
Et est-ce qu'il y a d'autres dessinateurs que Tardy qui produisent du polar ?
Il existe effectivement bien d'autres productions en polar que celles de Tardy. Pour moi, les trois polars qui m'ont marqué sur les sorties de 2006, c'est tout d'abord Le Sang des Voyous de Paringo et Loustal, paru chez Casterman. C'est l'histoire d'un tueur à gages qui, à l'agonie, va quitter l'hôpital pour régler ses comptes et retrouver sa fille. Le trait de Loustal, plus proche de l'illustration que de la BD proprement dite, crée une distance entre le texte et le dessin. Il accentue vraiment la force du récit. C'est un récit vraiment très noir et très poignant. Autre polar marquant pour moi cette année, c'est « Tue-moi à en crever » de David Lafamme, qui est une traduction d'un polar BD américain. Donc c'est l'histoire de Steven qui, de retour de soirée, découvre sa femme, Eve, qui est pendue au milieu du salon. Donc il est complètement, évidemment, désorienté. Et il se réfugie auprès de Tara, un amour d'enfance dont il a récemment retrouvé la trace. Donc tous deux mènent en apparence une vie heureuse pour un temps. Rapidement, ça va complètement partir en vrille. Donc c'est vraiment un scénar qui est bien monté. On se laisse vraiment vite absorber par cette histoire.
Et c'est américain ?
C'est américain, ouais. C'est une traduction d'un polar BD américain. Et effectivement, la production de polar BD aux États-Unis est beaucoup plus importante qu'en France. Enfin, surtout le vrai polar bien noir est beaucoup plus présent aux États-Unis, et ils ont aussi un format de bouquins qui s'y prête beaucoup plus. C'est des format roman que la BD, vraiment.
Ah oui,
grand format, du noir et blanc et beaucoup de pages, donc ça favorise les récits noirs et denses.
D'accord. Heureusement, on a quand même du polar marseillais en BD.
Voilà, un autre notre polar marquant, donc Sans Pitié, polar très noir, on peut le dire, qui se déroule effectivement à Marseille. Nous accueillons donc les deux scénaristes de cette trilogie, Pascal Génaud et Bruno Pradel. Bonjour.
Bonjour.
Donc pour résumer cette histoire, Manu, le héros, se retrouve pris dans un guet-apens lors d'une rêve partie. Pour lui, c'est à partir de là la descente infernale. Il se retrouve au beau milieu de règlements de compte de la mafia marseillaise. Alors quel est le point de départ de cette histoire ? Quelles étaient vos motivations quant à l'écriture d'un polar en BD ?
Ben, ce qui nous a motivés, c'est déjà nos goûts, quoi. On aime le polar depuis toujours, cinéma, roman, puis BD, quoi. Donc, habitant à Marseille, on est aussi imprégné d'une ambiance, quoi, hein, pas forcément par rapport aux autres acteurs du polar, mais juste par rapport à la ville et ce qui s'y passe, quoi. Et ce qui nous a motivés, bah, c'était tout simplement faire ce qui nous plaît, quoi.
Ouais, je crois que c'est la réponse la plus simple, c'est qu'au départ, tout simplement, c'est un genre qui nous passionne, donc on est allé naturellement dans cette voie-là. Après, il y a aussi une tradition qui s'est peut-être un peu perdue, mais qui existait beaucoup dans le cinéma avant, c'est que très souvent, aussi bien les scénaristes que les réalisateurs faisaient leurs premières armes dans le polar. Donc d'une certaine façon, on a aussi suivi cette tendance-là.
Et dans ce scénar, il y a vraiment différentes facettes. Vous abordez aussi bien les problématiques du milieu de la drogue que celles de la guerre d'Algérie, le Tchad. Pourquoi vous avez choisi d'écrire cette histoire de cette façon ? Enfin, vraiment avec toutes ces facettes et un peu un scénar à tiroir. Bon, je ne dis pas ça de façon péjorative, mais on part sur plein d'histoires en même temps.
Ouais, c'est-à-dire que c'est vraiment un récit polyphonique où on part sur beaucoup de groupes de personnages qu'on croise entre eux, ce qui était je dirais, en fait, une manière de pouvoir aborder beaucoup de thématiques différentes tout en les croisant ensemble. Donc au départ, ce qu'on voulait faire, c'était mêler d'un côté des personnages qui sont, je dirais, issus du vécu, c'est-à-dire des jeunes qui sont de notre génération, qui ont un vécu qui pourrait être ou qui a été en partie un petit peu le nôtre. Et puis de l'autre côté, les confronter à d'autres réalités. Donc d'un côté, une réalité, je dirais, déjà romancée, hein, c'est-à-dire le milieu marseillais, etc., qui... Il y a une grande tradition quand même de récits là-dessus. Et puis de l'autre côté, on se situait un petit peu dans la logique du roman noir français, notamment à partir des années 70, qui a tendance chaque fois à relier le récit à des thématiques et des problématiques qui sont historiques ou sociologiques. Donc on se situait un petit peu dans cette veine-là.
Et ensuite, c'est un peu une histoire de vengeance où la vengeance de deux protagonistes vont faucher la vie de plusieurs personnages. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup et c'est pour ça qu'il y a des rebondissements par rapport au devenir de chacun, quoi.
D'accord. Et vous parliez tout à l'heure de vos influences en polar, roman, ciné, BD. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques titres comme ça marquants qui vous ont influencé sur cette histoire et sur le reste de...
Moi, je dirais, je pense que c'est des références communes. En roman noir, je dirais le roman noir post-68 français de Deninx ou de Japrisot. Donc on a été très très flattés que Didier Deninx accepte de faire la préface du premier tome, parce que pour nous c'était vraiment, vraiment une forme de reconnaissance qui était très très... très agréable, je dirais, en fait. Et c'est vrai qu'on c'est beaucoup eux qui nous intéressaient. Tu parlais tout à l'heure de l'adaptation de Manchette par Tardy. Bon, Manchette, c'est vraiment aussi une référence importante.
Après, en BD, y a, en français déjà, il y a Baru, qui est quand même un super dessinateur, scénariste de polar, quoi. En américain, il y a Bendis, il y a l'auteur de Sentier de la perdition, de History of Violence, de BD qui ont été adaptés au cinéma, quoi. On espère que ça se passe bientôt en France, peut-être même pour nous.
Pour Sans-Pitié, petite adaptation cinéma de Sans-Pitié. Moi, j'ai une question, mais un petit peu de novice en BD. Comment on travaille ? Vous êtes scénariste, hein, c'est ça ? Comment on travaille avec les dessinateurs ?
Alors, en fait, nous, ce qu'on donne aux dessinateurs, d'une certaine façon, c'est tout simplement c'est la description planche par planche de chaque case, case par case.
Ah, vous décrivez chaque case ?
On décrit chaque case en séparant le visuel et les textes. Ensuite, à partir de ça, le dessinateur, donc Olivier Thomas, fait un premier storyboard, où lui, il aménage ça un petit peu à sa manière. C'est un petit peu comme moi, je vois ça un petit peu comme un musicien qui jouerait une partition. Donc, il peut la jouer différemment. Il va des fois, nous, on a mis deux cases, il va en faire une. Un dialogue, il va le déplacer, il va le mettre ailleurs, parce qu'il trouve qu'au niveau du rythme, etc., ça rend mieux. Il nous propose ça, on en discute ensemble. Et à partir de là, il fait son travail de dessinateur qu'on suit au pas à pas. Mais ça, c'est en schématisant très rapidement parce qu'au départ, bien évidemment, on discute de l'histoire avec lui. Il apporte ses éléments, ses idées, de la même manière que nous, après, au dessin, on va aussi apporter nos éléments.
Ouais, c'est une création collective, ça doit...
C'est vraiment un travail d'équipe. Enfin, ouais. Nous, c'est notre manière de travailler parce qu'on vit aussi à Marseille, qu'on n'habite pas très loin les uns des autres, qu'au dernier moment, s'il y a un problème, on peut se passer un coup de fil et se voir. Bon, donc c'est assez agréable de pouvoir travailler.
Là, les
ça.
Deux tomes sont sortis. Là, il y a deux tomes. Hein. Alors j'en ai lu deux.
Voilà, c'est ça. Il y a deux tomes. Donc, l'histoire sera complète en trois tomes, donc justement. Et justement, qu'est-ce que nous réserve la suite ?
Ben, le troisième tome, en fait, c'est le fond de l'histoire, quoi. Puisque pour nous, là, les deux premiers étaient un peu un prologue à ce troisième tome qui aura plus de planches et où on va enfin tout comprendre. On va savoir ce que deviennent les gens, ce que deviennent nos héros, puisqu'il n'y en a pas qu'un, quoi. Et il se suffit presque à lui-même dans le sens où... ce qu'on dit avant est important, mais sera vraiment révélé sur ce tome-là qu'on prépare assidûment.
Et qui doit sortir quand ?
Qui devrait sortir globalement à peu près dans un an.
D'accord, patience.
Oui, un petit peu de patience.
Donc pour les auditeurs, pour découvrir les planches de Sans Pitié, il y a une expo qui aura lieu pour le festival Jazz et Polar du Cri du Port.
Alors, ça va avoir lieu le jeudi. Le vernissage de l'exposition a lieu le jeudi 1er février, donc au Cri du Port, avec donc une rencontre avec nous et puis une soirée bœuf jazz à partir de 18h30, donc au Cri du Port. Et puis ensuite, l'exposition sera visible pendant, je crois, une 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus exactement.
D'accord. Très bien. Merci.
Merci à vous.
Merci à tous les trois, Peggy, Bruno et Pascal. Je rappelle que la Réserve à Bulles, c'est la librairie BD de Marseille, à La Plaine, dans le 6e. Avant de terminer l'émission avec le coup de cœur du Colibri, on écoute un dernier extrait de la BO d'Ascenseur pour l'échafaud par Miles Davis au bar du Petit Bac. À tout de suite.
Elle a avoué.
C'est faux, elle ment. C'est moi qui ai tué Brignon.
Tiens.
Oui, je l'ai assommé avec une bouteille de champagne et...
Et il est mort d'une balle de revolver dans le cœur, hein? Comme c'est curieux.
Qu'est-ce que vous dites?
Je dis que j'en ai marre de toutes vos cachotteries. Martineau n'a pas tué Brignon et sa femme non plus. Mais ils étaient là-bas tous les deux. Et vous y êtes allés, vous aussi, hein? Une vraie surprise partie. Ah, pourquoi? Pourquoi?
Génie avait oublié Cernard. Et puis j'avais peur qu'elle ait laissé des traces.
Oh nom de Dieu, c'est vous qui avez effacé les empreintes? Eh ben, vous avez fait du propre. Vous avez brouillé les cartes et c'est peut-être la petite Jenny qui va payer.
Ne me dites pas ça, je vous en prie, monsieur, sauvez-la.
Vous l'aimez bien, hein, votre ami?
Bien mal, je l'aime.
Je sais. Et je vais essayer de la tirer de là, parce que je crois que je connais le vrai coupable.
Oh, merci.
Non, merciez pas. Je fais mon boulot. Et puis, je vais vous dire... Vous m'êtes particulièrement sympathique, mademoiselle Dora Meunier.
Moi?
Oui. Parce que, je vais vous dire, vous êtes un type dans mon genre.
Coup de cœur. On termine ce numéro 5 consacré au polar et roman noir avec le coup de cœur du Volatile. Un coup de cœur en trois volets et exclusivement anglo-saxon, pardonnez-moi s'il le faut. Je commence par la plume saut british de Maureen O'Brien, qui publie chez HB Éditions le deuxième volet des aventures de l'inspecteur Bright. Ça s'appelle « À l'inattendu, les dieux livrent passage ». Alors Maureen O'Brien, c'est à la base une comédienne et une dramaturge. Elle a déjà écrit 7 titres, 7 romans policiers parus en Grande-Bretagne. Et après « Les fleurs sont faciles à tuer », publié en 2006, « À l'inattendu, les dieux livrent passage », c'est le deuxième titre traduit en français par Lala Landa et publié chez HB Éditions. HB Éditions est une maison d'édition implantée à Fort-Calquier, en Haute-Provence, qui, soit dit en passant, prévoit de publier l'intégralité des enquêtes de John Bright à raison de 2 titres par an. Avis aux futurs accros, donc. John Bright est un inspecteur au cœur d'artichauts qui font pour les actrices et encore plus lorsqu'elles ont des choses à se reprocher. À l'inattendu, les dieux livrent passage commence par la découverte d'un cadavre périmé dans la baignoire d'une comédienne partie en tournée depuis plusieurs semaines et l'enquête menée par le pas toujours gentleman mais quand même délicieux inspecteur Bright entraîne le lecteur dans un polar théâtral sympathique. Aux antipodes donc du roman noir dégoulinant de cruauté et d'injustice, à l'inattendu les dieux livrent passage est un roman policier propre, presque convivial, un parti pris étonnant. Pour les amateurs du chandelier du colonel Moutarde donc, les fleurs sont faciles à tuer et à l'inattendu les dieux livrent passage de Maureen O'Brien. C'est chez HB Éditions à 22 € pièce. On traverse l'Atlantique et on passe un style radicalement différent avec « Une canaille et demie » de Yen Levinson, publié chez Liana Levy. Toi, amateur de polar, tu as sans doute lu le premier roman de Yen Levinson, un Écossais qui vit en Caroline du Nord. Souviens-toi, ça s'appelle « Un petit boulot » et c'est sorti en 2005, toujours chez Liana Levy. Un polar aussi excellent que loufoque qui dresse un portrait acerbe de l'Amérique des losers. Une canaille et demie est un peu dans la même veine et s'amuse de la rencontre d'un braqueur de banque fraîchement libéré du placard et d'un prof à l'ambition parasitée par un goût trop prononcé pour les étudiantes midinettes de la fac. Lequel des deux sera le plus fourbe ? Une lecture pleine de cynisme, de rebondissements et de vérité dont il ne faut pas se priver. Pour les amateurs de petites frappes donc, Un petit boulot et Une canaille et demie de Yen Levinson, traduit par Fanchita González Batal. C'est sorti chez Liana Levy, l'un est à 8, l'autre à 18 €. On termine avec un roman noir de Denis Lehane, devenu culte suite à l'adaptation cinématographique de Clint Eastwood. Vous l'aurez reconnu, je parle de Mystic River, publié en 2001 chez Payot et Rivage, et qu'on trouve aujourd'hui en poche dans la collection Rivage Noir. Mystic River, c'est près de 600 pages haletantes, déroutantes, émouvantes, impossibles à résumer tant l'intrigue est dense, les rebondissements nombreux et inattendus. On peut juste souligner que les personnages sont pleinement romanesques et en même temps terriblement humains. L'intrigue est parfaitement ficelée, le dénouement sonne juste et c'est assez rare pour être précieux. Bref, tous les ingrédients sont là, sans pour autant qu'on ait la désagréable impression de lire une recette. Comme dit la quatrième de couverture, Mystic River est un roman très noir, mais aussi un hymne à la vie. Pour les amateurs d'Eros et Thanatos donc, Mystic River de Denis Lehane, traduit par Isabelle Maillet, en Rivage Noir, c'est à 9,50 €. Voilà, Colibri, c'est fini. Merci à tous ceux qui ont participé à ce numéro. Merci donc à Pierre et François. Merci à Anne, Laetitia, Clémence, David et Anne-Sophie. Merci à Pascal, Bruno et Peggy. Merci à Rémi pour le générique de l'émission, alors à la programmation musicale et spéciale dédicace à Mister Cake à la technique. Vous avez pu entendre au cours de l'émission des extraits de Quai des Orfèvres, un film de Henri-Georges Clouzot de 1947 avec Louis Jouvet et de Psychose d'Alfred Hitchcock, tourné en 1960 avec Anthony Perkins et Janet Leigh. Toutes les infos sur l'émission, c'est via le net sur le site de la Grenouille, www.grenouille888.org, rubrique co/libri. Enfin, le volatile attend de vos nouvelles. Écrivez-lui vos impressions, vos suggestions, vos réprobations à colibri-sur-grenouille@yahoo.fr. On se retrouve le mois prochain, même heure, même fréquence, pour parler cette fois-ci des auteurs qui n'écrivent pas leurs livres et de ceux qui le font à leur place. À très vite.
J'ai parlé trop vite, Antoine.
Oh, y a pas de mal, tout le monde peut se tromper. Moi, il y a un mois que je me gourre.
C'était une histoire sordide.
Comme toutes les histoires.
Oui, on s'excite, on s'emballe.
On croit que ça va être une belle affaire.
Et ça finit comme d'habitude. En pipitcher.